C'est parti.
De Melevé Malka et donc Elohim Nishmotam de Jacques Yitzhak ben Moshe et Shoshana et Moshe ben Mordechai et Chassiba. La question de ce soir est une question très classique. Le nouveau livre dans lequel nous avons lu et relu donc pour la deuxième fois cette semaine s'appelle Shemot, les noms. Alors il commence effectivement par une énumération de noms dont Rashi nous dit, nous disent que, a priori, cette énumération est inutile, puisqu'elle répète une énumération qui a déjà été faite dans Parshat Vaïgash. Rashi explique que la raison pour laquelle elle est répétée ici, cette énumération, c'est pour montrer l'amour d'Hachem pour le clan Israël. Avant Éluard, il y a déjà cette idée que quand on dit le nom de quelqu'un, ça peut être c'est un signe d'amour, une manifestation d'amour. Ceci étant, il y a dans cette énumération, il y a des choses qui posent problème, en particulier la position de Yosef dans cette énumération. Et puis la fin de l'énumération, à la fin de l'énumération, le pasouk dit « Ouvnez Israël, parou, vaïshretzu, vaïyirbu, vaïyatsmu, bimeod, meod, vatimale, haaretzotam. » Les bnei Israël se sont multipliés. Et le pasouk utilise un terme ici qu'on a beaucoup de mal à appliquer aux êtres humains et en particulier à nos ancêtres. Le pasouk dit va yishretsu, c'est-à-dire ils ont pullulé. C'est le verbe qu'on utilise quand on veut décrire le pullulement justement des insectes et autres reptiles. D'appliquer ça à des êtres humains, c'est un parfum très désagréable. On ne voudrait pas voir ça dans un texte écrit par un goy concernant les bénis Israël. Enfin, c'est la Torah qui parle de nous en ces termes-là. On y reviendra. Ce que dit le texte immédiatement après, c'est le récit, donc commence le récit de ce qui va être la sortie d'Égypte, mais évidemment le récit de la sortie d'Égypte commence, on l'a déjà dit plusieurs fois, par le récit de l'exil lui-même, de la descente des Bnei Israël en Mitzrayim, ça on en a parlé à la fin du Sefer de Réchit, et on parle de cette installation des Bnei Israël en Mitzrayim et du début de la condition d'esclaves des Bnei Israël. Paro présente à son peuple, a priori, les Bnei Israël comme étant une éventuelle cinquième colonne, un danger de par la démographie galopante. qui est la leur. Donc, le pasouk ne s'est pas privé d'exprimer en disant va yishretsu. Ils prennent des paroles, essayent de mettre un frein à cette démographie galopante. Ça ne marche pas, vous savez, avec des indications données aux sages-femmes, etc., ça ne marche pas. Puis ensuite, ils décident de noyer les garçons dans le fleuve. Et puis, vient dans ce deuxième chapitre de Sefer Shemot, la naissance de celui qui va délivrer les Bnei Israël sur l'ordre d'Hachem. Et le pasouk dit « Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi, vatar ha'isha vatelet ben, vatere oto kitov hu, vatitzpeneu, shlosha irachim. » Donc, un homme de la tribu de Levi a épousé, il est allé et il a épousé une fille de la tribu de Levi, une fille de Lévi, plutôt, directement. La femme est tombée enceinte, elle est enceinte, elle met au monde un fils, on voit que le fils est bon, elle le cache pendant 3 mois, ensuite elle ne peut plus le cacher, comme vous savez, alors on fabrique le fameux berceau et on met l'enfant dans ce berceau et on le pose dans les joncs au bord du fleuve. Et la sœur de l'enfant, elle se tient à distance pour voir ce qui va arriver. Descend, il y a la fille de Paro qui descend au fleuve et elle récupère le berceau en question. Elle voit que cet enfant est un enfant des Hébreux. Puis il y a l'épisode où elle parle à la sœur. Et puis la sœur, elle dit, si tu veux, je vais aller te chercher une nourrice parmi les femmes hébreux. Et la fille de Paro accepte. Et la jeune fille y va et elle appelle la mère de l'enfant. Et la fille de Paro lui dit, tu vas allaiter mon enfant, allaite l'enfant, cet enfant-là, pour moi, et je te paierai. Et la femme a pris l'enfant, elle l'a allaité. Et l'enfant a grandi, et on l'a amené, on l'a rendu, on l'a donné à la fille de Paro. Il a été pour elle un fils, comme pour un fils. Et elle l'a nommé Moshe, et elle a dit, il est mon fils parce que je l'ai sauvé des eaux, enfin de l'eau. On les connaît tous ces gens. Le père s'appelle Amram, la mère s'appelle Yocheved, la sœur s'appelle Myriam, la fille de Paro c'est Bathias, on les connaît. Pourquoi est-ce que le texte ne dit pas leur nom? En plus, un texte qui figure au début du livre qui s'appelle Les Noms, c'est scandaleux qu'ils ne disent pas les noms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on cache les noms? Jusque-là, le seul nom qui est dit, c'est Moshe. En vérité, il y a eu 2 noms qui ont été dits auparavant, je ne les ai pas lus, c'est les noms des sages-femmes. Mais ce ne sont pas non plus leurs noms. C'est les fonctions qu'elles ont occupées. C'est des noms fonctionnels. Pas du tout des noms. Pas des noms propres, bien sûr. Alors qu'il y a une discussion dans Chazal pour savoir qui sont ces 2 femmes. Mais de toute manière, quelles qu'elles soient, on les connaît. Donc la grande question, c'est pourquoi les noms ne figure-t-il pas? Alors, il y a beaucoup de réponses. Le Rav Volbe rapporte comme réponse à cette question. Il dit que toute la démarche de cet homme qui va épouser une fille de Lévi, cet homme de la tribu de Lévi qui épouse une fille de Lévi, c'est une démarche qui va mener à la Géoula, qui va mener à la libération. Et la Gemara dans Psachim dit qu'il y a 7 choses qui sont cachées aux yeux des hommes. L'une d'entre elles, c'est le terme de l'exil, le terme des différents exils. Et on explique que ces choses viennent de très haut, elles viennent d'un lieu où nous n'avons pas accès, qu'on ne pouvons pas connaître. C'est ce que nous appelons le sod, le secret. Il dit donc qu'il y a deux mondes. Il y a un monde qui est dit Galoui, un monde qui est ouvert, dévoilé, clair. Et il y a un monde qui est Nistar, qui est un monde caché. Il se trouve dans le monde Nistar, il n'y a pas de force contraire. Donc c'est là que les choses peuvent réussir. Et c'est pourquoi les noms ne figurent pas, parce qu'on est dans le monde du Nistar, dans le monde du caché. On a déjà vu cette démarche avec Tamar qui se déguise pour avoir un enfant de Yehuda, parce que cette descendance de Yehuda est la descendance royale et la descendance qui va mener à David Améler, puis au Mashiach. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont tellement, tellement hautes que les choses doivent se faire de façon aussi secrète que possible. Rashi dit que les premières tables de la loi ont été brisées parce que justement, il n'y a pas eu suffisamment de tzniout, il y a eu trop de pubs, si vous voulez, sur ces tables de la loi-là, et c'est pourquoi les deuxièmes qui ont été données de façon beaucoup plus discrète, elles ont persisté. On veut donc essayer de savoir quelque chose sur les noms, et avant d'attaquer le problème même des noms ici, dans cette paracha, d'essayer de donner une explication, c'est encore une autre, si vous voulez. Je veux revenir à une nomination du Sefer Bereshit. Yaakov Avinu a appelé son fils, Yosef, et il lui a fait jurer de l'enterrer en Eretz Israël. Yaakov lui dit de jurer, et Yosef répond à son père, mais il ne jure pas tout de suite. Il ne jure pas. Et son père va insister pour qu'il jure, alors finalement il va jurer. Alors on explique de façon classique que ça a à voir avec la difficulté que Paro allait faire pour laisser Yosef, qui connaît tous les secrets de l'Égypte, sortir d'Égypte, et il pourrait revenir avec une armée étrangère. Et lui, il connaît mieux l'Égypte que les Égyptiens, mieux que Paro. Donc, on comprend très bien que Paro, a priori, ne veuille pas laisser sortir Yosef. Et donc, parce que son père a obligé Yosef à jurer, alors Yosef est en position de résister et d'obtenir, de façon que tout le monde connaît, d'obtenir effectivement la permission de Paro d'aller enterrer Yaakov Avinu en Eretz Israël. Mais en réalité, il y avait quelque chose d'un peu plus profond derrière cela. Il y a que Yosef, lorsqu'il a eu les deux enfants qu'il a eus de Osnat, il les a appelés Ephraïm et Menaché. fait, je devrais dire Menaché et Ephraïm, parce que l'aîné c'est Menaché. Lorsqu'il nomme son fils Menaché, il dit qu'il le nomme parce que Elohim l'a aidé à oublier Kolbet Abba, Kolbet Avi, en hébreu, toute la maison de son père. Et quand il nomme Ephraïm, alors dans Ephraïm il y a l'idée de Piria Verivia, et donc il le nomme par rapport à cette possibilité qu'il a eue d'avoir des enfants alors qu'il était a priori dans une situation où il ne pouvait pas beaucoup en espérer. Mais en fait, ça veut dire que Yosef a une idée sur la façon dont les choses doivent se dérouler. Yosef agit pour transformer l'Égypte. Il voit que c'est son tafkid, c'est sa tâche de le faire. Il exprime ceci avec les noms de ses fils, de Menaché et d'Ephraïm. Yosef a abandonné sa famille, il a été contraint de l'abandonner, et Hachem l'a aidé à oublier justement cette maison paternelle. Et Yosef comprend qu'il s'agit ici d'une ère nouvelle qui commence. Et il comprend que dans cette ère nouvelle, il va falloir qu'il se multiplie. Il voit très bien, quelque part, il est en train de penser à construire le peuple d'Israël. Enfin, le peuple, pas d'Israël encore, le peuple de Yosef, disons. Il pense qu'il doit construire quelque chose. Il dit, si je suis là, c'est pour des raisons qui peut-être me dépassent, mais il écoute ce qu'il est en train de vivre, en quelque sorte, et il comprend que, puisqu'il est en position de dominer l'Égypte, et la Torah nous explique comment est-ce qu'il a organisé cette économie égyptienne, économie d'abondance, puis ensuite l'économie de famine. Mais bien entendu, la Torah n'est pas venue nous donner un cours d'économie. Yosef domine l'Égypte, mais il domine aussi la culture égyptienne. Yosef a obligé les Mitzrim, les Égyptiens, à faire la Mila. Et par trois fois, on répète, quand on parle de la femme de Yosef, Osnat, elle est à chaque fois présentée comme étant la fille de Potiphéra, la femme, Cohen On, qui est le interprète du culte égyptien. Ça veut dire que Yosef veut aussi agir sur, disons, la spiritualité égyptienne. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que, comme vous vous souvenez probablement des psukim, les terres des Kohanim, il n'a pas réussi à les confisquer au profit de Paro. Il a confisqué toutes les terres, mais pas celles des Kohanim, pas celles des prêtres. Quelque part, les prêtres ont gardé leur autonomie, ils ont gardé leur indépendance, ils ont gardé leur quant à soi, si vous voulez, dans cette Égypte, et donc sur ce plan-là, il n'a pas réussi. Sur la culture, à leur corps défendant, les Égyptiens ont dû faire la Mila, et donc ça modifie toute la situation. Ça, c'est la position de Yosef. Yosef, si vous voulez, pense que il y a quelque chose à construire. Et cette chose qui doit se construire, elle doit se construire en Égypte. et qu'il lui incombe de prendre des mesures qui vont permettre cette construction. Donc c'est ce qu'il fait, il prend les choses en main, il dit, ben, si Hachem a fait en sorte que j'ai la haute main sur l'économie égyptienne, que je puisse, par le biais des pressions économiques, obliger les Égyptiens à faire la Mila, c'est-à-dire à, disons, on va dire ça, c'est le côté culturel des choses. Alors, c'est vrai que ça ne marche pas complètement du côté de la spiritualité, mais il pense qu'il y a quelque chose d'important à faire ici, et il fait descendre ses frères, il fait descendre Yaakov Avinu. Il pense que les frères, Yaakov Avinu, vont eux aussi influencer l'Égypte. Mais ils pensent aussi que l'Égypte va les influencer. Oublier la maison de son père, ça veut dire, d'une certaine façon, être capable d'intégrer des valeurs égyptiennes, celles qu'on peut intégrer sans que ce soit contraire aux, disons, valeurs de Yosef, en fait. Il pense qu'il va y avoir un ce brassage des populations, si vous voulez. Alors on dit que la raison pour laquelle Yosef a systématiquement brassé les populations, c'était pour que les Bnei Israël ne se sentent jamais étrangers. Les Bnei Israël, quand ils sont arrivés, les fils de Jacob, quand ils sont arrivés avec leur famille et tout, ils étaient étrangers à l'Égypte. Alors là où ils arrivaient, il y avait les autochtones qui étaient là, et puis eux étaient des pièces rapportées. Alors pour que personne, pour que les Bnei Israël ne soient pas dans cette situation, alors Yosef a déporté littéralement des villes entières d'un endroit à l'autre, il a échangé les populations, de telle sorte que les populations étaient elles aussi étrangères, donc de telle sorte que ses frères et leurs familles ne soient pas étrangers, pas plus étrangers que les autres, si vous voulez. Ça, c'est son mélange. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il va y avoir, pour Yosef, une notion de mélange, d'influence réciproque, en quelque sorte. Alors, nous, on n'aime pas tellement ça, mais ça semble être, avoir été, en tout cas, le projet de Yosef. Il faut, pour mémoire seulement, rappeler que à un moment donné, Yosef a pensé que son père avait raté sa mission. Quand il pensait que ses frères se conduisaient mal, Yosef pensait que, bon, son père a raté, et c'est lui, Yosef, qui par ailleurs savait qu'il était potentiellement capable d'avoir 12 fils, donc de faire ce qui incombait à Yaakov et que Yaakov n'aurait pas bien fait, il pense que lui va pouvoir le faire. Alors ça n'a pas marché non plus, puisque comme vous savez, avec l'histoire de Mme Potiphar, il a perdu cette possibilité, il n'a eu que 2 enfants, et donc en plus il a dû reconnaître que s'il a été sauvé du problème que posait Mme Potiphar, c'est grâce à l'image de son père, donc il a compris que son père n'avait pas tellement raté son coup. Mais Yaakov lui-même, jusqu'à la fin, il se demande, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi? Vous savez bien qu'à la fin de sa vie, Yaakov, quand il voit ses 12 fils autour de son lit de mort, en fait, il pense qu'il a raté, et ce sont ses fils qui le rassurent, en lui disant, Shema Israël, c'est vrai, nous sommes tous nous sommes potentiellement des peuples différents, mais ce qui nous unit, c'est Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema Israël, il s'adresse à leur père, Israël. Écoute, Israël, n'aie pas peur, nous sommes unis, malgré les apparences, nous sommes unis parce que nous avons cette émouna commune dans le fait que Hachem est Echad. Hachem Elokeinu, il est notre Dieu et il est Echad. Donc, quelque part, cette idée que Yosef doit faire les choses, elle était déjà chez le jeune Yosef, si on peut parler comme ça, et dans la nouvelle situation, la situation égyptienne dans laquelle il se trouve, elle revient, cette idée. Mais Yaakov Avinu n'est pas d'accord avec Yosef. Lui, il veut que tout se passe en Eretz Israël. Alors, il y a bien un moment maintenant où on est obligé d'en passer par l'Égypte parce que pour des raisons de famine, mais pour lui, ça ne doit pas durer plus longtemps. Et donc, il dit à son fils, enterre-moi en Eretz Israël. Alors que Yosef, en fait, il aurait bien voulu que son père soit enterré momentanément, en tout cas en Égypte, comme il le sera lui, Yosef. Lui, il va dire, ok, moi, on va m'enterrer provisoirement en Égypte, mais il dit au peuple d'Israël, quand Hachem donnera le signal, vous prendrez mes ossements et vous les enterrerez en Eretz Israël, enterrement définitif. Mais tout ça, d'une certaine manière, c'est quand il s'est aperçu que son père était absolument contre le fait de rester enterré, même provisoirement, en Égypte. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il comprend que ce n'est pas évident pour Yosef, il lui dit « jure ». Jure avec le Kitat Refet, il le fait jurer, le serment maximal qu'on puisse demander à quelqu'un, il fait jurer qu'effectivement il l'enterrera en Eretz Israël. Alors, c'est pas qu'il ne lui faisait pas confiance, mais étant donné que Yosef pensait autrement que lui, Yaakov lui a imposé cette chose-là. Cette machloket entre Yaakov et Yosef, elle se voit dans les brachot que Yaakov va donner au fils de Yosef. Yaakov est déjà depuis 17 ans en Égypte, il connaît les fils de Yosef, il les voit tous les jours, enfin, fréquemment en tout cas. Et quand Yosef vient pour faire venir ses fils, Yaakov dit, il les voit et dit, Mielé, qui ces gens-là? Alors on explique bien sûr, Mielé ça veut dire, je vois que je n'arrive pas à bénir ses enfants. Pourquoi j'arrive pas? Bon, alors, Rachid explique, parce que dans leur descendance, ils vont avoir des idolâtres, etc. Mais toutes les tribus vont avoir des idolâtres, malheureusement, dans leur descendance. Ça n'a pas empêché Yaakov de les bénir. Alors, Yosef lui répond, ben, c'est les enfants que Hachem, que Elohim m'a donné, basés, c'est-à-dire en Égypte. Bon, ces enfants-là, c'est vrai qu'ils sont habillés comme des princes égyptiens, parce qu'ils sont nés en Égypte, et Hachem les a donnés en Égypte. Ok, alors, Yaakov dit, alors, amène-les, je vais les bénir. Et puis, au lieu de commencer à les bénir immédiatement, il commence à raconter son histoire, que Kadosh Baruch Hu m'a promis, il a fait des promesses, etc. C'est parce que, en voyant ces princes égyptiens, ça ne lui plaît pas tellement, il voit mal ce cheminement de Yosef. Alors il essaye de créer un lien affectif avec eux, c'est marqué, il les a pris dans ses bras, il les a embrassés, ça ne marche pas. Alors Yosef comprend qu'il faut tout recommencer, alors il retire les enfants qu'il avait rapprochés de Yaakov pour qu'il les bénisse. Lui, il se prosterne, donc il s'écrase devant son père. Ok, ça veut dire, si ton souci c'est que j'ai un projet qui n'est pas du tout comme le tien, etc. Ok, je m'écrase. Et maintenant, tu peux donner maintenant la bracha à ses enfants. Mais même comme ça, ça ne va pas exactement comme Yosef le veut. Yaakov, bien entendu, il ne veut pas déshériter Yosef. Il va lui donner deux shvatim pour le remplacer, deux tribus. Mais la question c'est, lequel des deux sera la suite de Yosef, et lequel sera, donc l'autre sera un shevet, une tribu à part. Il y en a un qui devra vraiment représenter Yosef. Et alors il y a de nouveau un conflit entre Yosef et Yaakov à ce sujet-là. La Torah, elle décrit, elle situe les fils par rapport, d'un côté par rapport à Yaakov et d'un côté par rapport à Yosef. C'est-à-dire, d'un côté, ce qui est à droite pour l'un est à gauche pour l'autre, comme vous comprenez bien. Yosef veut qu'Ephraïm soit son continuateur. Puisque lui, ce qu'il veut, il comprend, c'est que maintenant, il va falloir passer au stade de la multiplication. Quand j'ai compris ce qu'il fallait faire, j'ai le pouvoir, mais maintenant, il faut que mes descendants se multiplient. Il veut passer la même étape que l'étape de la multiplication par 12, celle que Yaakov a faite, et puis bien plus que ça. Donc, il faut la multiplication. Donc, Ephraïm, la notion de Piria Verivia, il veut que ce soit lui son continuateur. C'est-à-dire, en fait, que son second fils, parce que Menaché c'est le Bechor, son second fils soit son continuateur. Donc, c'est pour ça qu'il le prend à sa droite, c'est son continuateur, donc à la gauche de Yaakov. Et à la droite de Yaakov, il y a Menaché. C'est-à-dire, cette référence à l'oubli, il demande en quelque sorte à Yaakov d'être d'accord avec sa façon à lui de voir les choses. Bien sûr, Yaakov n'est pas d'accord. Mais il ne veut pas contrer complètement Yosef. Alors il ne déplace pas les fils, il croise les mains, comme chacun sait. En d'autres termes, il ne veut pas mettre Ephraïm entièrement à droite et Menaché entièrement à gauche. Ce qu'il veut, lui, c'est que même en galoute, puisqu'il se trouve en galoute à ce moment-là, la possibilité de Piria Verivia reste ouverte. On puisse continuer, le clan d'Israël puisse continuer à se développer dans l'exil. C'est assez important. On a passé l'essentiel de notre vie de clan d'Israël en exil. Alors, si en exil on n'avait pas pu se reproduire et se multiplier, on aurait été perdu avec tout ce qu'on a tué de Bnei Israël. Et donc effectivement, même avant, la tribu la plus nombreuse, ce sera la tribu d'Ephraïm. Yaakov veut récupérer en fait les deux voix de Yosef, c'est-à-dire les deux fils qu'il a eus avant que Yaakov ne descende en Égypte. Mais pour lui, Ephraïm, c'est une tribu à part. Et donc pour lui, Ephraïm, c'est le Bechor. Il va lui donner le pouvoir du Bechor. Yaakov le met avant Menaché. Et c'est Menaché qui continue le travail de Yosef, ce qui ne plaît pas vraiment à Yosef. Parce qu'il dit, l'oré, Nabi. Il dit, c'est pas comme ça. Son père dit, oui, j'ai compris, je sais très bien ce que je fais. Et effectivement, que ce soit la preuve que c'est comme ça que ça s'est fait, c'est que quand on parlera des explorateurs, dans Sefer Bamidbar, on va dire le représentant de la tribu d'Ephraïm, et puis ensuite on dit, l'Ivné Yosef, l'Ivné Menaché. Donc on dit Menaché comme suite de Yosef. C'est Yaakov qui a gagné sur ce plan-là. Mais Menaché lui-même, comme suite de Yosef, il va avoir une double tribu, si on peut parler comme ça. Bon, c'est direct deux moitiés, ça fait pas plus que un. Mais enfin, la seule tribu qui est divisée en deux, c'est la tribu de Menaché. Donc il y a de nouveau quand même à l'intérieur de celui qui est le successeur de Yosef dans l'optique de Yaakov Avinu, il y a cette double part, qui est la double part qu'on donne à un Bechor normalement. Donc on lui donne une double part, mais on ne lui donne pas le rôle essentiel, quelque chose d'un peu mi-figue, mi-raisin en quelque sorte. Pourquoi ces absences de nom maintenant? Revenons à notre affaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom, mais il y a quand même la mention de l'appartenance à la tribu de Lévi. Certains disent qu'il n'y a pas de nom parce qu'il faut sortir du social, du fonctionnel. Alors d'abord, il faut revenir à fonctionnel complètement, puis ensuite s'en arracher. Ou alors, comme Jean-Claude Boyer l'a dit, c'est un problème de famille, comme ils sont descendus Ishuveto, et qu'aux sages-femmes, on leur a fait des bâtimes, des maisons. Le problème de retrouver son nom, c'est en fait, ça passe obligatoirement par la construction de familles. Et donc, il faut, l'idée, construire une famille, ça va permettre d'accéder à un nom. Quand ils auront construit une famille, Amram et Yocheved, ils vont accéder à des noms. On va les nommer. On va dire Moshe et Aaron, qui sont les enfants de, qui sont les fils de Amram et de Yocheved. D'autres disent que le problème, c'est un problème de paternité. Que en fait, ce que Paro voulait, c'était détruire toute la notion de paternité dans le clan Israël. Le Majgiah, le Rav Goldberg, il dit que c'est un problème de tzniout, de qu'est-ce que ça a à voir, qu'est-ce que ça a à voir avec la Géoula. Je vais proposer de lire un petit peu différemment. Il s'agit ici de la construction du clan Israël. Et on part de cette situation que je vous ai indiquée, ce Vaishretsu, ce pullulement. C'est une masse informe, une masse grouillante, effrayante, dégoûtante. C'était ça, la masse de départ. Une espèce de golem avant qu'Hachem n'insuffle la neshama. Pourquoi l'indication de l'appartenance à la tribu de Lévi? On avait vu dans un autre, on avait Malka, que Rambam, quand il décrit l'émergence du clan Israël, il dit que en Mitzrayim, en Égypte, on a pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Les seuls qui ont gardé quelque chose de cela, c'était la tribu de Lévi. Pourquoi Lévi? Pourquoi Lévi a un statut à part, comme on le voit dans les brachot de Yaakov déjà? Alors on a tendance à dire, mais c'est parce que c'est la tribu qui va produire les Kohanim, etc. Mais à ce moment-là, il n'y a pas la Avoda, c'est le fait des Bechorot, c'est les premiers-nés qui font la Avoda, ce ne sont pas les Kohanim, il n'y a pas de Kohanim à ce moment-là. Malgré tout, ce sont ceux qui doivent s'occuper de l'étude, en fait, comme c'est ce que Yaakov a dit. Il faut répartir Shimon et Lévi, il faut les disséminer dans le clan Israël parce qu'ensemble ils sont un danger public. Et on va mettre les Lévi à l'enseignement, ils doivent étudier et enseigner. Et c'est ça là, on l'a déjà dit, c'est ça en fait la fonction essentielle des Kohanim. Les Kohanim, on a tendance à les voir beaucoup comme des prêtres, comme des gens qui s'occupent des corbanotes, etc. Mais je vous rappelle qu'il y a 24 mishmarot, ça veut dire que les Kohanim travaillent sur le terrain 15 jours par an. Et par conséquent, sauf les quelques moments d'Yamim Tovim où tout le monde est sur le pont, mais en gros, ils travaillent que 15 jours par an, puisqu'il y a 24 mishmarot. Et donc, leur fonction essentielle, leur occupation essentielle, c'est d'étudier et d'enseigner la Torah. C'est ça la fonction des Kohanim. Et donc la tribu de Lévi, pourquoi la mention? Pour dire qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. On ne pouvait pas avoir cette masse complètement informe, s'il n'y avait absolument rien du tout, on ne pouvait pas commencer. Il fallait qu'il y ait quand même un tout petit quelque chose. La seule tribu qui a encore un tout petit peu de structure abrahamique, si vous voulez. Paro, lui, va s'efforcer de détruire complètement le clan Israël. Il va s'efforcer, par exemple, d'abolir même la distinction homme-femme, puisqu'il va, par le travail. il va faire le travail des hommes par les femmes, le travail des femmes par les hommes, c'est dans le but d'abolir complètement la distinction entre les hommes et les femmes. Donc, quelque part, même ce qui pourrait être structurant, c'est une distinction, donc c'est le début de quelque chose, d'une séparation, donc de la Kdoucha, cette distinction possible, mais lui, il a essayé de l'abolir par le biais du travail. Donc, on a affaire à Paro qui veut complètement détruire, et Yosef qui comprend que, voilà, à partir de cette masse-là, il va falloir construire, il va falloir avancer, aller dans la construction d'un peuple, en fait. Qu'est-ce qu'avaient les Bnei Israël pour... Ils avaient quand même quelque chose. Je vous ai dit, ils ont la tribu de Lévi. Mais il y a un Midrash Tanchuma qui dit que les Bnei Israël avaient des rouleaux avec lesquels ils jouaient de Shabbat en Shabbat. Et dans ces rouleaux-là, il était écrit qu'ils allaient être libérés. Et quand Moshe et Aaron sont allés chez Paro pour essayer d'alléger un peu la charge des Bnei Israël et que tout au contraire, ça a mal tourné, Paro a dit, vous êtes, le Midrash Rabba dit, pardon, c'est le Midrash Tanchuma dit, vous êtes sans arrêt des lamas, c'est-à-dire pourquoi sans arrêt poser des questions, etc. Alishou, il ne faut pas que les Bnei Israël, enfin, ces gens-là, hein, il ne faut pas qu'ils espèrent quoi que ce soit. Et le Midrash Tanchuma fait un jeu de mots, en fait, sur ce Alishou. Il le transforme en Shashuim. La chaîne de Ishou, je répète le Shinaïn, ça fait Shashuim, c'est en fait, comme David Ameler dira, que la Torah, c'est mon Shashuai, et si j'avais pas ça, j'en serais mort. C'est mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des jeux qui sont des jeux à la vie et à la mort, bien sûr. Mais c'était ce qui permettait au Bnei Israël de tenir le coup, en fait. De Shabbat en Shabbat, il se ressourçait et il reprenait courage, puisque dans ces rouleaux, c'est des textes de pré-Torah, si vous voulez. Quelque chose où la Torah qui est dite dans ces rouleaux, c'est uniquement une Torah qui parle de libération. Parce qu'à ce moment-là, ces gens-là, on ne pouvait pas leur demander autre chose. On pouvait leur parler seulement pour leur donner de la force, comme la Torah nous donne à nous aussi de la force, en nous disant comment il faut se conduire, etc., pour que les choses puissent réussir. Alors, ces textes-là, ces rouleaux-là avec lesquels ils jouaient, et ils n'avaient que le Shabbat, parce que le reste du temps ils travaillaient, ils jouaient avec de Shabbat en Shabbat, et le Shabbat était justement pour eux le temps adéquat pour pouvoir jouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Paro a dit, ben non, je ne veux pas qu'il joue. Je ne veux plus qu'il joue, ça veut dire je ne veux plus qu'il tienne le Shabbat. Parce que s'ils ont Shabbat, alors de Shabbat en Shabbat, ils reprennent à chaque fois du poil de la bête, si on veut, et donc on n'arrivera pas à les écraser, on n'arrivera pas à faire de cette... pour que cette masse informe, en quelque sorte, reste informe, reste à mon service comme une masse informe, et il risque de se structurer, en fait, grâce à cet espoir-là. Ces textes, c'est des textes, en fait, qui sont des textes à interpréter, si vous voulez. Des textes sur lesquels ils pouvaient commencer à spéculer. Ça veut dire que, bien avant que la Torah leur soit donnée, la Torah chez Birtav leur soit donnée, les Bnei Israël avaient déjà développé une capacité à interpréter les textes, des textes qui parlent de liberté. Donc ils ont pu ainsi lire la liberté dans les textes gravés, le Charout al Aluchot, le Charout qui est Charout al Aluchot, la liberté qui est ce qui est gravé sur les tables. Pourquoi ? Parce que ils y étaient entraînés, en fait. Ils s'étaient entraînés durant le Galout. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de source qui me dise d'où venaient ces rouleaux-là. Qu'est-ce que c'était que ces rouleaux ? Maintenant, il y avait des textes qui annonçaient qu'ils allaient, ils allaient en sortir, ils allaient être libérés. Mais bien sûr, ces textes, probablement, devaient être... Il fallait jouer avec, c'est-à-dire, il fallait, comme on joue avec la Torah, comme David Amener dit qu'il va jouer, ou comme on dit qu'Akadosh Baruch Hu joue aussi. Avec, jouer, ça veut, c'est pas du tout péjoratif. Jouer, c'est justement faire jouer les textes, faire jouer les mots, faire jouer les expressions les unes avec les autres, etc., jusqu'à donner à toutes sortes de formes à cette liberté. C'est la liberté telle qu'elle est presque impensable. Enfin, n'oubliez pas que, à la fin, on a affaire à des gens qui sont des esclaves depuis plusieurs générations. On a expliqué en son temps pourquoi est-ce qu'on a besoin de Karpas, le soir du Seder, pour nous mettre en appétit pour la liberté. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on n'a même pas d'appétit pour la liberté. Il n'y a même pas d'espoir d'être libéré. Et les Bnei Israël étaient tellement enfoncés dans leur condition d'esclaves que s'ils n'avaient pas eu ces rouleaux-là, peut-être qu'ils n'auraient pas du tout eu la force, même cette minorité qui a accepté, ce cinquième, qui a accepté de sortir de Mitzrayim avec Moshe Rabbeinu, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé ce cinquième-là non plus. Parce que c'était tellement terrible, cet esclavage était tellement terrible, tellement destructeur. Les Bnei Israël sont à ce moment-là en dessous de tout. Cette masse informe-là, c'est une masse qui est en dessous de tout. Ils sont en dessous des esclaves égyptiens, s'il en existe. Eux sont en dessous de tout. Il y a quelqu'un dont le nom s'est imposé là dans ce qu'on a dit avec le nom de en même temps que le nom de Yosef, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Parce que si Yosef est au début de la sortie d'Égypte, si on peut parler comme ça, Moshe Rabbeinu, lui, il est à la fin de la sortie d'Égypte. Et vous savez bien que dans le désert, il y avait côte à côte les porteurs du Aaron HaKodesh, les porteurs de la boîte dans laquelle il y avait les Louchot, et les porteurs du cercueil de Yosef. Et quand les gens demandaient, ils ont dit qui aime Zé, Machekatouf Bezé. Celui-là, Yosef, il a appliqué ce qui est écrit dans la Torah. Donc Yosef a appliqué la Torah. Yosef a appliqué en Galout. Il a appliqué en Égypte la Torah. Ce qui était alors la Torah, la forme de Torah d'alors. Et Moshe Rabbeinu, quand il arrive, il est presque en image par rapport à Yosef. Yosef, il vient d'Eretz Israël et il s'est retrouvé en Mitzrayim. Et Moshe Rabbeinu, il vient de Mitzrayim et va se retrouver aux portes d'Eretz Israël. Yosef a des parents sont des Bnei Israël. Il est le fils de son père, le fils de sa mère. d'une certaine façon, mon cher Rabbeinu, lui, il a deux mères. Il a Yocheved, bien sûr, mais Yocheved est presque sa mère biologique. La mère qu'il a élevée pendant 40 ans. Mon cher Rabbeinu était 40 ans dans le palais de Paro. Celle qui lui a permis de survivre, d'abord physiquement, puis ensuite dans le palais de Paro, celle qui l'a protégé, celle qui lui a permis de vivre et de s'imbiber et de connaître. Moshe Rabbeinu était dans le cœur de l'Égypte. Il est dans le palais de Paro pendant 40 ans. Il connaît toute l'Égypte. Il connaît tout ce qu'il y a à connaître de l'Égypte. Matthias, c'est sa mère d'une certaine façon. C'est elle qui l'a nommée. Il y a un Chazal qui dit que en égyptien d'alors, Moshe, ça veut dire fils. Donc son nom, c'est fils, mais le fils de Matthias, le fils de... On a donc cette sortie d'Égypte, j'ai déjà dit plusieurs fois que la descente en Égypte, c'est le commencement de la sortie d'Égypte. C'est pas qu'il y a eu un accident, pour une fois, et qu'on s'est retrouvé esclave en Égypte et qu'il a fallu des miracles pour en sortir. Nous sommes descendus en Égypte parce que c'était la réalisation de la promesse qui avait été faite par Hachem à Abraham Avinu. Teda, sache que tes enfants seront esclaves, enfin, ils seront dans un pays étranger, en Égypte, etc., un pays qui ne sera pas le leur, ils vont être soumis à l'esclavage, etc., mais ils en sortiront. Et quand ils sortiront avec un grand butin. La descente, la réalisation de cette promesse, elle a commencé quand Yaakov Avinu a envoyé Yosef prendre des nouvelles de ses frères. Yaakov Avinu l'envoie là-bas dans le fameux Emek Hebron. Tout le monde sait que Hebron, ce n'est pas une vallée, ce n'est pas un Emek, c'est une montagne. Et donc là-bas, c'est parce que c'est là que se trouve la profondeur de la pensée, de la promesse qui a été faite à celui qui est couché dans la poussière à Hebron, c'est-à-dire à Abraham Avinu. C'est ça, Emek Hebron. Yaakov Avinu, bien sûr, quand il envoie Yosef au Caspit, il est inconscient de ce qu'il fait. Bon, on ne peut pas comprendre comment il a pu le faire. Ça dépasse complètement tout ce qu'on peut imaginer. Là, il est lui-même utilisé par Hachem pour la réalisation de son projet. Et ensuite, ce qui arrive à Yosef, c'est aussi quasiment incroyable. D'esclave à vice-roi d'Égypte, la probabilité n'était pas très grande. Mais Hachem a fait en sorte qu'il arrive là. Hachem a fait en sorte que Yosef ramasse tous les territoires dans la main de Paro pour que Paro devienne un interlocuteur unique et valable pour Moshe Rabbeinu dans la démonstration que Hachem veut faire de sa toute puissance au moment de la sortie d'Égypte. Yosef fait des tas de choses qui sont là. On ne comprend pas exactement pourquoi il le fait. Lui, il a son Cheshbon, j'ai essayé de dire quelques-unes de ces choses. Mais en fait, Hachem utilise ce que Yosef va faire pour que le projet de la promesse qui a été faite à Abraham Avinu et celle qui a commencé à fonctionner à travers la décision un peu folle de Yaakov Avinu d'envoyer Yosef prendre ses nouvelles de ses frères. Et puis ensuite arrive cette époque où tout se délite complètement, où il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ce Moshe va naître dans un monde où il n'y a pas de nom. C'est-à-dire où il n'existe aucune personne qui puisse se dire, moi avec ma personnalité, j'ai mis au monde celui qui va être le libérateur du clan Israël. Ça ne peut pas passer par quelqu'un qui en aurait conscience. Au point que ceux qui sont effectivement à l'œuvre dans cette naissance n'ont pas de nom. C'est comme s'ils n'existaient pas en tant que personne. Ils ont un rôle à jouer. Bon, je vous ai dit, ça touche un tout petit peu à la famille de Lévi, pour les raisons qu'on a dites. C'est aussi quelque chose qui d'après la Torah est impensable, puisque Yocheved est la tante d'Amram, et que selon les lois de la Torah, Amram n'avait pas le droit d'épouser sa tante. Arrive ici, émerge Moshe. Moshe qui, lui, ne veut pas du tout aller s'occuper de ça. Moshe Rabbeinu va refuser. Pendant 7 jours, il va refuser au moment du sneh, au moment du buisson ardent, il va refuser d'aller sortir les Bnei Israël. Pas parce qu'il ne voulait pas les sortir, mais parce qu'il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère. Moshe Rabbeinu pensait, durant tout cet exil, c'est mon frère qui est sur le terrain. C'est lui qui console les gens, c'est lui qui leur donne de la force, etc. Et moi, le planqué, 40 ans dans le palais de Paro, le planqué, je vais arriver là comme un... Et voilà, c'est moi le chef. Non, je ne vais pas. J'y vais pas. Ça va lui coûter cher à mon cher Rabbeinu. Hachem sera très en colère contre lui. Et il va lui enlever la kehuna gdola qu'il aurait eue. Moshe Rabbeinu, s'il avait accepté, il aurait été Melech ce qu'il a été. Voyez, Vishurun Melech, c'est Moshe Rabbeinu. Mais il aurait également été Kohen Gadol. Et le pasteur Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Aaron, ton frère, le Lévi, il aurait, lui, normalement dû rester Lévi. Et toi, tu aurais dû être Kohen. Kohen Gadol. Non, c'est lui qui va prendre ta place. Aaron n'a jamais atteint le niveau de Kehuna Gdola que Moshe Rabbeinu aurait occupé si c'était lui qui avait été. Mais il a quand même été le Kohen Gadol. Et ces deux-là, Yosef au départ et Moshe Rabbeinu à l'arrivée en quelque sorte, c'est eux qui ont sorti les Bnei Israël de Mitzrayim. Comme ça, on peut comprendre que quand il s'est agi de remplacer Moshe Rabbeinu, quand les Bnei Israël se sont trompés dans leur compte, qu'ils ont pensé que Moshe Rabbeinu avait disparu, il est monté au Sinaï, il n'est pas revenu d'après leur Heshbon, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé Moshe Rabbeinu. Et par quoi est-ce qu'on l'a remplacé? On l'a remplacé par Yosef. Qui est le seul duquel on puisse dire qu'il a participé à la sortie d'Égypte. Parce que le taureau, le veau, c'est l'emblème de Yosef. Si le taureau est sorti du creuset que Aaron avait fabriqué, c'est parce qu'on a jeté dedans la fameuse plaquette d'or sur laquelle Moshe Rabbeinu avait écrit « Allez, Shor ». Monte, taureau. Cette plaquette, Moshe Rabbeinu l'avait fabriquée pour faire monter le cercueil de Yosef, que Paro avait scellé au fond du Nil, sachant que les Bnei Israël ne partiraient pas sans le cercueil de Yosef. Alors il avait rendu l'accès au cercueil Impossible. Moshe Rabbeinu a jeté cette plaquette sur le cercueil est remonté. Moshe Rabbeinu ne s'est pas occupé de la plaquette en question, il l'a laissée. L'or chez Moshe Rabbeinu, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Lui, quand tout le monde s'est occupé d'aller chercher de l'or et de l'argent, lui s'est occupé d'Atzmot Yosef, de chercher les. Comme c'est marqué, Chacham Lev Ikach Mitzvot. Lui prend des mitzvot. Les autres sont cherchés, ils ont pris de l'argent et de l'or, mais lui, il a pris encore une mitzvah. La mitzvah qui était la condition sine qua non quasiment pour sortir de Mitzrayim. Il fallait bien tenir sa parole par rapport à Yosef. Et donc, aller shor, ça veut dire monte taureau, ça voulait dire monte, toi dont l'emblème est le taureau. L'emblème de la tribu de Yosef, c'est le taureau. Et c'est pour ça que, si vous voulez, c'est comme ça qu'on pouvait remplacer Moshe Rabbeinu. Il n'y avait rien qui puisse remplacer Moshe Rabbeinu. Ce n'était pas fou, les Bnei Israël. Il faut remplacer Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas remplacer Hachem. Il voulait remplacer Moshe Rabbeinu. Mais remplacer Moshe Rabbeinu, qui nous a sortis de Mitzrayim, c'est possible uniquement si on trouve quelqu'un qui a à voir quelque chose avec la sortie d'Égypte. Or, le seul qui a vraiment quelque chose à voir avec la sortie d'Égypte, comme Moshe Rabbeinu, c'est Yosef. Donc les noms qui ne sont pas donnés ne sont pas donnés parce que il ne faut pas, quand on veut obtenir une chose pareille, il ne faut pas que qui que ce soit puisse penser qu'il y ait pour quelque chose dans cette sortie d'Égypte. Celui qui pourrait penser, c'est moi qui ai enfanté cet enfant, qui va devenir Moshe, c'est ça qui va faire sortir, pourrait penser quelque chose. Non, il faut que ce soit complètement, comme je vous ai dit, comme le golem avant qu'Hachem donne la neshama. C'est-à-dire quelque chose de totalement non structuré, et les noms, ça structure, justement. Que ce soit non structuré. Finalement, Yosef s'est rallié à la proposition de Yaakov. Il a demandé à être rapatrié lui aussi en Mitzrayim, mais il a demandé à ce que ce soit fait quand l'Égypte n'avait plus rien à donner aux Bnei Israël. Les Bnei Israël n'avaient plus rien à prendre en Égypte. Chazal disent, Vaynatzloet, ils sont sortis d'Égypte et ils ont laissé l'Égypte comme une nasse dont on aurait enlevé tous les poissons. C'est-à-dire toutes les fameuses étincelles, l'intérieur des étincelles, qu'il y avait en Égypte, les Bnei Israël les ont prises. Et donc l'Égypte était vide. Il n'y avait plus rien à faire, donc. Même sous forme de cercueil, Yosef n'avait plus rien à y faire. C'est une première chose, donc il faut avoir bien conscience. Mais on pourrait presque dire la chose suivante, c'est que Yosef, finalement, ce que Yosef voulait faire, ça s'est fait. Mais pas comme lui le pensait. C'est-à-dire, les choses se sont faites, et le clan Israël est né en Égypte. Quand il est né, la naissance commence en Égypte. Il deviendra vraiment un peuple qu'au pied du Sinaï, comme chacun sait, mais la naissance commence en Égypte. L'Égypte, c'est notre mère, en fait. La mère du clan Israël, c'est pas Eretz Israël. On a éventuellement une deuxième mère, mais c'est l'Irak. C'est-à-dire, c'est Babel, là où, effectivement, les Bnei Israël se sont trouvés au moment de la construction du deuxième Beth Amikdash. Et le fait que nous sommes tous des Babyloniens par le biais du Talmud Bavli. Mais les choses se sont faites. L'erreur de Yosef, probablement, si on peut parler comme ça, c'est d'avoir voulu les faire par lui-même. Ce qu'Hachem a fait, c'est que ça se fait, mais ce n'est pas toi qui le fais. Bon, les choses se sont faites de façon différente de ce que Yosef pensait. Yosef pensait qu'il allait faire ce brassage des populations, que le clan Israël allait prendre tout ce qu'il y avait à prendre de l'Égypte, et puis ensuite on allait partir, etc. Les choses se sont faites d'une certaine manière, mais pas comme lui il le pensait, pas par lui non plus. Là aussi, c'est comme l'histoire de l'absence des noms. Sinon, il y aurait eu le nom de Yosef dans la sortie d'Égypte. Vous savez, même le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas dans la Haggadah. Le rédacteur de la Haggadah de Pessah, il n'a pas mis le nom de Moshe Rabbeinu, en tout cas pas dans une position importante. Pourquoi il ne l'a pas mis? Parce que nous devons savoir, on doit savoir que c'est Hachem qui nous a sortis d'Israël, et pas Moshe Rabbeinu. Et si on avait mis trop l'accent sur Moshe Rabbeinu dans la Haggadah de Pessah, on aurait pu penser que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Israël. C'est pas vrai, c'est Hachem qui nous a sortis d'Israël. Lo al yedei malach, lo al yedei shliach, lo al yedei saraf, et la Kadosh Baruch Hu bichvodo ba'atzmo nous a sortis de Mitzray. Et pas qui que ce soit d'autre. Et même quand le Baal HaGada parle d'Avraham Avinu, il en parle quasiment comme d'un pion. Si vous le lisez dans la Haggadah, vous verrez. Il dit, j'ai pris Avraham, je l'ai mis ici. Quand on regarde ça, on dit, mais de quoi il parle là? L'Avraham dont il parle, il n'a aucune épaisseur psychologique. Non, il ne faut pas monter. Par rapport à la Géoula, c'est entièrement de l'ordre de l'ordre de la... C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait les choses, et les hommes y sont pour rien. Akadosh Baruch Hu dit, c'est la promesse que j'ai faite à vos ancêtres, c'est pour cette promesse-là que je vous ai sorti d'Égypte, et pas pour votre souffrance, ni pour vos pleurs, ni vos prières, etc. Je suis sorti de là-bas parce que je l'avais promis d'y acheter. Voilà.
Exact.